Intermède médiéval. Ce sont 25 siècles d'histoire qui séparent Platon de Russell, et pour les couvrir en une vingtaine de chapitres, je vais devoir sacrifier quelques auteurs et quelques périodes. Le Moyen-Âge sera, je le crains, ma plus grosse victime à l'autel de la brièveté. Je ne cache pas que mes choix d'auteur reflètent en large partie mes préférences et mes habitudes de lecteur. Or, comme beaucoup de mes contemporains, même philosophes, j'ai relativement peu lu de philosophie médiévale. C'est une lacune, sans aucun doute, car ce millénaire mal aimé ne manque pas de grands textes et de grands auteurs. Beaucoup de théologies s'y mêlent sans que la philosophie disparaisse pour autant. L'opposition entre la foi et la raison ne va pas de soi pour les penseurs médiévaux. Si la révélation qu'apportent les textes sacrés est vraie, et si l'enquête rationnelle elle aussi mène au vrai, l'une et l'autre ne sauraient se contredire. La vérité ne peut être contraire à la vérité, écrira le subtil Averroès à ce propos. Pour le citer plus exactement, puisque donc cette révélation est la vérité et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen des étangs par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé. Car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Averroès, discours décisif. Ce passage est suivi d'une discussion sur l'art d'interpréter le sens du texte révélé lorsque son sens littéral entre en contradiction avec ce qui est rationnellement démontré. En somme, pour peu qu'on soit assez souple dans l'interprétation, on peut toujours suivre la raison sans jamais donner tort au texte sacré. Ainsi, beaucoup de théologiens seront autant, voire davantage, philosophes que théologiens. Les discussions et controverses philosophiques médiévales sont loin de se réduire à des querelles sur le nombre d'anges pouvant tenir sur la tête d'une épingle. La discussion indirecte entre Averroès et Thomas d'Aquin sur l'éternité du monde et la nature de l'intellect est un débat aussi passionnant qu'important dans l'histoire de la philosophie. Et n'oublions pas que c'est à un docteur de l'Église du XIVe siècle, Guillaume d'Ockham, que l'on doit le rasoir qui porte son nom et qui plus tard servira bien souvent à raccourcir la barbe de Dieu. Le rasoir d'Ockham, ou principe de parcimonie, exprimé par la formule « les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité », c'est-à-dire qu'il faut préférer l'explication recourante aux hypothèses les moins nombreuses et les plus simples. Et il s'avère qu'il est souvent plus parcimonieux de se passer de l'intervention divine dans l'explication des phénomènes. Pour me faire pardonner d'enjamber cavalièrement le Moyen-Âge et sa philosophie, je tenais à consacrer un chapitre à un texte médiéval. Que choisir ? J'ai d'abord songé au fameux argument ontologique d'Anselme sur l'existence de Dieu, ou pourquoi Dieu est trop grand pour ne pas exister. Pour les curieux, l'argument d'Anselme et son excellente critique par le moine Gonillon, la réponse d'Anselme et un ensemble d'autres critiques postérieures, notamment de Thomas d'Aquin et Kant, sont réunis dans ce petit livre « Anselme de Cantorbory, Proslogion, Flammarion, collection GF, 1993 ». J'ai finalement opté pour deux textes qui serviront d'introduction à la pensée de Descartes, avec qui, après ce chapitre, nous allons reprendre notre itinéraire dans la philosophie moderne. Les médiévistes se plaindront, et ils auront raison, que le seul chapitre que je consacre aux auteurs du Moyen-Âge serve en fait de marchepied vers la philosophie moderne. Mais cela me donne tout de même l'occasion d'évoquer deux figures majeures de la philosophie médiévale, Augustin et Avicenne. Chapitre 7. Augustin et Avicenne. Sur les traces du cogito. L'âme se connaît dès lors qu'elle se cherche. Augustin d'Hippone et Avicenne sont deux philosophes médiévaux que bien des choses séparent, à commencer par 6 siècles d'histoire et un continent. Augustin a vécu autour de l'an 400 entre l'Afrique du Nord et l'Italie, et Avicenne vers l'an 1000 du côté de l'Iran et de l'Ouzbékistan actuel. Le premier est de religion chrétienne, c'est l'un des 4 pères de l'Église, et vous pouvez l'appeler Saint Augustin depuis qu'un pape en a décidé ainsi. Mais ne faisons pas de chichi et laissons l'auréole au vestiaire, cher Augustin. Le second est de religion musulmane, c'est l'un des plus grands savants de son temps, et s'il n'avait pas été lu et commenté par ces vieux auteurs latins qui latinisent sans vergogne tous les noms exotiques, il serait aujourd'hui plutôt appelé Ibn Sina. Si je réunis ces deux auteurs dans ce chapitre, c'est pour évoquer deux de leurs textes assez surprenants qui se ressemblent dans leur thème et dans leur argumentation, et qui ressemblent surtout à un troisième plus tardif et plus fameux, le cogito de Descartes. Cogito, c'est « je pense » en latin, et les philosophes emploient cette expression en référence à la plus célèbre formule de Descartes, « je pense, donc je suis ». Avant d'en venir aux deux textes d'Augustin et d'Avicenne, et pour mieux en apprécier le caractère étonnant et précurseur, je dois faire un détour dans le futur par ce cogito de Descartes. Nous avons quitté la philosophie antique sur le scepticisme et l'idée fâcheuse qu'aucune connaissance n'est possible. Descartes, au début du XVIIe siècle, en cette époque où s'esquisse la révolution scientifique, Galilée est déjà vieux, Newton va bientôt naître, voulait faire table rase du passé et fonder une bonne fois pour toutes la science sur une base certaine, absolument certaine, que rien ne puisse ébranler, pas même l'assaut des sceptiques les plus radicaux et agaçants. Mais le doute est corrosif et semble pouvoir tout attaquer. « Qu'à cela ne tienne, dira Descartes, mettons toute chose à l'épreuve du doute, nous verrons bien ce qui résiste. Et si rien ne résiste, tant pis pour la science. » Notez que Descartes n'est pas sceptique, tout au contraire. Il utilise le doute comme une méthode, un moyen d'identifier par élimination ce qui pourra être tenu pour certitude absolue. On parle de doute méthodique chez Descartes, non de doute sceptique. Descartes commencera par admettre que nous pouvons douter de ce que nous présente les sens. Lorsque nous rêvons, nos sensations sont similaires à celles que nous avons à l'état de veille et rien ne peut nous garantir à coup sûr que nous ne sommes pas, maintenant, en train de rêver. De façon plus audacieuse, Descartes ira ensuite jusqu'à douter des vérités mathématiques. Certes, 2 plus 3 égale 5 m'apparaît vrai, mais je peux imaginer qu'un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper. C'est la fameuse hypothèse du malin génie qui nous donne une bonne excuse pour évoquer Matrix en cours et prendre un coup de vieux en se rendant compte que le film est plus vieux que les élèves et qu'aucun ne l'a vu. Ce malin génie me donnerait ainsi l'illusion que 2 et 3 font 5 alors qu'il n'en est rien. Je me trompe chaque fois que je veux faire cette addition. C'est un doute des plus extrêmes, des plus fous, un doute hyperbolique, une paranoïa épistémologique qui n'exige rien de moins qu'une persécution absurde et constante de la part d'un malin génie tout-puissant. Mais, encore une fois, pourquoi pas ? Nous pouvons douter. Dès lors que le doute est poussé si loin, n'y a-t-il rien qui puisse y résister ? Peut-être que je me trompe sur 2 plus 3 égale 5, mais pour qu'il y ait quelque chose à propos de quoi je me trompe, il faut bien que je pense à cette chose. Si je ne pensais pas que 2 plus 3 égale 5, il n'y aurait aucun sens à dire que je me trompe à ce propos. Il y a ainsi quelque chose de constant dans le doute. C'est le fait que je pense toutes les choses dont je doute, malin génie ou non. Et donc, le fait que je pense, je ne peux pas en douter, puisqu'il faut bien que j'y pense pour en douter. Qu'en pensez-vous ? Descartes le formulait ainsi. Il n'y a point de doute que je suis si ce malin génie me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saura jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Descartes, Méditation métaphysique. Pour le dire encore autrement, on peut douter de tout sauf de ce qui rend le doute possible. Or, la condition de possibilité du doute, c'est que je pense l'objet de mon doute. Il est donc certain, absolument certain, indubitable, que je suis en train de penser pendant que je doute. Je peux me tromper sur absolument tout, mais pas sur le fait qu'en ce moment, je pense. Ou pour le dire en latin, car c'est toujours plus chic, cogito. En outre, si je pense, il faut qu'il y ait quelque chose qui pense, le sujet de cette pensée, c'est-à-dire moi. Je peux douter que le monde extérieur existe, puisque je pourrais rêver ou un malin génie pourrait tromper mes sens, mais je ne peux pas douter que j'existe, moi, en tant que sujet de cette pensée qui doute. Voilà le sens de ce fameux « je pense, donc je suis » que Descartes formule dans son discours de la méthode, qui sera mieux développé dans ses méditations métaphysiques et que l'on retient souvent sous sa forme latine « cogito ergo sum ». Descartes, en fait, l'a bien écrit en français dans le discours de la méthode, mais toute la discussion savante sur ces questions s'est faite en latin. Et de là, le mot « cogito » sert communément à désigner cette certitude de ma propre existence comme être pensant. Deuxième point important, qui suit immédiatement le cogito chez Descartes, ce « moi qui pense » est une substance distincte des substances matérielles. Dans un vocabulaire plus contemporain, cela revient à dire que l'esprit est une entité distincte des entités physiques. L'argument de Descartes, qu'on appelle aujourd'hui l'argument modal, repose sur ces deux prémices. D'une part, il est possible de douter de l'existence des choses matérielles, hypothèse du rêve ou du malin génie. D'autre part, il est impossible de douter de l'existence d'un « moi qui pense », certitude du cogito. Conclusion, ce « moi qui pense » et dont on ne peut pas douter, est distinct des choses matérielles dont on peut douter. Selon cet argument, donc, mon esprit est immatériel, distinct de mon corps, et est donc susceptible de survivre au corps, ce qui peut être avantageux et rassurant, il faut en convenir. Le cogito a une importance fondamentale dans la philosophie de Descartes et, à travers lui, dans la philosophie moderne, c'est-à-dire le mouvement qui, à partir de la Renaissance, se développe en réaction à la philosophie médiévale et accompagne la révolution scientifique. En outre, même si la substance pensante à la Descartes n'est plus au goût du jour, et même si l'on doute généralement de la validité de cet argument modal que je viens d'esquisser, l'idée que l'expérience subjective nous donne accès à une forme de connaissance absolument certaine, que cette infaillibilité est inhérente à la subjectivité et qu'elle peut servir de fondement aux connaissances, c'est encore au cœur de nombreuses discussions contemporaines, aussi bien en épistémologie qu'en philosophie de l'esprit. À partir de Wittgenstein, par exemple, l'impossibilité de l'erreur à la première personne sera au cœur de nombreuses réflexions en philosophie de l'esprit. Quant à l'argument modal pour l'immatérialité de l'esprit, même s'il est le plus souvent rejeté, il reste important comme point de départ de nombreuses discussions sur le rapport de l'esprit au corps. Il faut donc rendre grâce à Descartes pour tout cela, lui qui, le premier, mit en lumière qu'on ne peut douter que l'on pense, puisqu'il faut penser pour douter. Tout au moins, s'est-il cru le premier, et cela lui semblait à juste titre une découverte importante. Mais voici ce qu'Augustin d'Hippone écrivait plus de 12 siècles avant Descartes, vers l'an 400. Est-ce l'air qui a la faculté de vivre, de se souvenir, de comprendre, de vouloir, de penser, de savoir? Ou est-ce le feu, la cervelle, le sang, les atomes, ou je ne sais quel cinquième élément ajouté aux quatre autres, ou l'ensemble et l'organisation de notre corps? C'est une question sur laquelle les opinions sont partagées, les uns adoptant celle-ci et les autres celle-là. Et cependant, personne ne doute qu'il ait la faculté de vivre, de se souvenir, de comprendre, de vouloir, de penser, de savoir et de juger. Bien plus, s'il doute, il vit. S'il doute de l'origine de son doute, il se souvient. S'il doute, il comprend qu'il doute. S'il doute, il veut être certain. S'il doute, il pense. S'il doute, il sait qu'il ne sait pas. S'il doute, il juge qu'il ne doit pas croire au hasard. Quelle que soit donc d'ailleurs la matière de son doute, voilà des choses dont il ne doit pas douter, car sans elles, il ne pourrait douter de rien. Mais ces choses, ceux qui pensent que l'âme est un corps ou l'arrangement et l'organisation du corps, veulent les voir dans le sujet, en sorte que la substance de l'âme serait, selon eux, de l'air, du feu ou un corps quelconque qu'ils prennent pour l'âme. Mais ni les uns ni les autres ne s'aperçoivent que l'âme se connaît dès lors qu'elle se cherche, comme nous l'avons montré plus haut. Or, elle est certaine d'elle-même, comme nous l'avons prouvé plus haut, et elle n'est nullement certaine qu'elle soit air, feu ou corps ou partie d'un corps. Elle n'est donc rien de cela, et l'ordre de se connaître elle-même tend à lui donner la certitude qu'elle n'est aucune des choses dont elle est incertaine, et qu'elle ne doit tenir pour certain que d'être ce qu'elle sait certainement qu'elle est. Augustin, De Trinitate, livre 10. Il est frappant de retrouver dans ces lignes la plupart des éléments du cogito de Descartes. D'une part, Augustin présente bien l'argument sur les conditions de possibilité du doute. S'il doute, il pense, etc. Voilà des choses dont il ne doit pas douter, car sans elles, il ne pourrait douter de rien. D'autre part, il développe le même argument modal sur la distinction de l'âme et du corps, justifié par le fait qu'on peut douter de l'existence du second et non de la première. L'âme est certaine d'elle-même, comme nous l'avons prouvé plus haut, et elle n'est nullement certaine qu'elle soit air, feu ou corps, ou partie d'un corps, elle n'est donc rien de cela. Bien sûr, certains aspects du texte de Descartes n'ont pas d'équivalent dans celui d'Augustin, comme le doute sur les vérités mathématiques, ou l'hypothèse du malin génie. Par ailleurs, certains points du texte d'Augustin peuvent sembler problématiques et moins précis aujourd'hui. En particulier, un lecteur contemporain pourra trouver problématique qu'Augustin inclut la faculté de vivre parmi les facultés que l'âme ne peut douter d'avoir. Cette dimension biologique détonne à côté des autres facultés purement intellectuelles qu'Augustin mentionne : se souvenir, comprendre, vouloir, penser, savoir, juger. Il faut comprendre que pour un auteur du 5e siècle, la notion d'âme est avant tout une notion biologique. L'âme est par définition le principe qui anime les êtres vivants. Le traité de l'âme d'Aristote, par exemple, est surtout un traité de biologie. Or, l'argument du cogito aboutit à soutenir l'existence d'une âme dont les facultés sont seulement de l'ordre de la pensée, autrement dit, un pur esprit. Ce changement dans l'usage du mot « âme » sera clairement assumé par Descartes et par la philosophie moderne ensuite, pour qui « âme », « anima », deviendra bien synonyme d'esprit, « mens ». Mais cela restait difficile à conceptualiser pour Augustin. En tout cas, après la lecture de son texte, il est difficile de ne pas conclure que le cogito est largement une redécouverte cartésienne, si ce n'est un emprunt, je vais y revenir. Passons maintenant à Avicenne. Voici ce que le prince des savants écrivait plus de 6 siècles avant Descartes, peu après l'an 1000. Il faut que l'un de nous s'imagine comme s'il était créé d'un seul coup et parfait, mais que sa vue soit voilée et qu'il ne puisse avoir une vision des choses extérieures. Qu'il est créé, tombant dans l'air ou le vide, de telle sorte que la constitution de l'air ne le heurte pas de façon telle que cela l'oblige à sentir. Que ses membres sont séparés, de sorte qu'ils ne se rencontrent pas et ne se touchent pas. Alors, il examine attentivement s'il établit l'existence de son essence. Il n'a pas de doute dans l'établissement de son « moi » comme existant, et il n'établit pas avec cela une partie de ses membres, ni aucun de ses organes internes, ni un cœur, ni un cerveau, ni aucune des choses extérieures. Mais il établit son « moi » sans établir pour lui ni longueur, ni largeur, ni profondeur. Et s'il lui était possible, en cet état, d'imaginer une main ou un autre membre, il ne l'imaginerait ni comme une partie de son « moi », ni comme une condition de son « moi ». Ainsi, le « moi » dont cet homme a établi l'existence a la propriété d'être lui-même et d'être distinct de son corps et de ses membres qui n'ont pas été établis. Donc, celui qui affirme a un moyen d'éveiller son attention au fait que l'âme est une chose différente du corps, ou plutôt d'un corps. Il sait cela et en a conscience. S'il l'avait oublié, il aurait besoin d'être frappé d'un coup de bâton. Avicenne, traité de l'âme du Sifa. Cette expérience de pensée de l'homme volant est souvent considérée aujourd'hui comme une autre esquisse du cogito. Toutefois, on n'y trouve pas, comme chez Augustin, un véritable argument sur les conditions de possibilité du doute. Avicenne affirme simplement de son homme volant qu'il n'a pas de doute dans l'établissement de son moi comme existant, ce que l'on peut concevoir en effet en tâchant de faire l'expérience de pensée, mais sans que la raison de cette absence de doute soit nettement explicitée. En revanche, nous retrouvons bien le même argument modal en faveur de la distinction de l'âme et du corps. Ainsi, le moi dont cet homme a établi l'existence a la propriété d'être lui-même et d'être distinct de son corps et de ses membres qui n'ont pas été établis. Le moi étant établi, c'est-à-dire affirmé comme existant, sans qu'on ait eu besoin d'établir par ailleurs l'existence du moindre corps, ni même de la moindre sensation, Avicenne conclut que l'âme est une chose différente du corps, ou plutôt d'un corps. Autrement dit, qu'elle est distincte de la matière en général. Une remarque en passant. Si l'on prend au sérieux cette expérience de pensée, elle est extraordinairement angoissante. Imaginez-vous ainsi privé de toute sensation sans que le reste de votre cognition soit affecté, n'être plus qu'une pensée, un moi intérieur sans la moindre interaction possible avec le monde extérieur. Vous pouvez fort bien être matérialiste et vous imaginer cela. Un cerveau brusquement coupé de toute entrée sensorielle devrait produire une telle expérience consciente. Et ce n'est pas loin de la situation dans laquelle se retrouve le personnage du film « Johnny s'en va en guerre » de Dalton Trumbo, ayant perdu la vue, l'ouïe, l'odorat et amputé de tous ses membres. Il lui reste tout de même la sensibilité de sa peau, mais l'eût-il perdu aussi, il serait tout à fait cet homme volant d'Avicenne. Certes, je peux croire que je n'en serais pas moins convaincu de ma propre existence en tant que sujet pensant, mais je risque aussi de devenir assez vite fou. Il est difficile et effrayant d'imaginer ce que serait cette existence flottante. Si Descartes n'a pas eu accès aux textes d'Avicenne et n'a donc pas pu être influencé par leur lecture, il avait bien accès à ceux d'Augustin, et il n'est pas saugrenu de se demander si ces idées n'ont pas tant été redécouvertes qu'inspirées, voire empruntées, plus ou moins sciemment. Dès l'apparition de son discours de la méthode, l'un de ses premiers lecteurs, le père Mersenne, écrivit à Descartes pour lui signaler la ressemblance entre son « je pense donc je suis » et plusieurs passages d'Augustin. Dans une réponse lapidaire, Descartes se contentera d'écrire « Saint Augustin ne me semble pas s'en servir à même usage que je fais ». Lettre à Mersenne, 25 mai 1637. À un autre interlocuteur, il dira de façon plus précise « Vous m'avez obligé de m'avertir du passage de saint Augustin auquel mon « je pense donc je suis » a quelque rapport. Je l'ai été aujourd'hui lire en la bibliothèque de cette ville et je trouve véritablement qu'il s'en sert pour prouver la certitude de notre être et ensuite pour faire voir qu'il y a en nous quelque image de la Trinité au lieu que je m'en sers pour faire connaître que ce « moi qui pense » est une substance immatérielle et qui n'a rien de corporel, qui sont deux choses différentes. Lettre à Colvius, 14 novembre 1640. Si Descartes a bien lu le passage du De Trinitate présenté dans ce chapitre, il fait preuve d'une certaine mauvaise foi. De fait, dans ses lettres, c'est la paternité de cet argument modal pour la distinction de l'âme qui semble lui tenir le plus à cœur, et ce n'est pourtant pas le point le plus original. On le trouve aussi bien chez Augustin que chez Avicenne. L'originalité de Descartes réside plutôt dans l'idée d'utiliser le cogito comme point de départ de toute connaissance, laquelle en effet n'est pas aussi présente chez ses prédécesseurs et constitue bien une nouveauté théorique importante. Il insistera davantage sur ce point dans ses Principes de philosophie. Au fond, Descartes semblait surtout un peu vexé que l'on remette en doute la paternité d'une idée dont il était si fier. Mais, tout bien considéré, elle n'est pas d'une originalité si extraordinaire. Et il n'y a rien de surprenant à ce que des auteurs divers l'aient évoqué avant lui, voire les développer comme Augustin ou Avicenne. Sans doute, en creusant un peu, pourrait-on déterrer encore bien d'autres esquisses de cogito pré-cartésien. En somme, Descartes a été le Christophe Colomb du cogito. Non pas le premier à le découvrir, mais le dernier à avoir pu se croire le premier. Ce n'est pas un mérite si mince, car il fallait pour cela que Descartes souligne si bien l'importance et le caractère fondamental du cogito que personne dans son siècle, ni pour les siècles suivants, ne pourra plus l'ignorer. Le drapeau cartésien est définitivement planté sur cette terra incognita. Quelques livres pour aller plus loin. Alain de Libera, Pensée au Moyen-Âge, Le Seuil, 1996. Pour me faire pardonner d'avoir si peu parlé de philosophie médiévale, je vais conseiller quelques livres qui en parlent bien plus et bien mieux que je ne pourrais le faire. Ce premier livre ne ressemble pas à l'idée que vous feriez d'un livre sur la philosophie médiévale par l'un des plus grands spécialistes du sujet. Au demeurant, si vous tenez à lire un livre conforme à cette idée, vous pouvez toujours vous plonger dans le manuel du même auteur intitulé « La philosophie médiévale », Paris, PUF, Collection Quadrige, 2019. Beaucoup plus complet, mais aussi beaucoup plus austère et moins amusant. A l'inverse, Penser au Moyen-Âge est souvent drôle et agréable à lire et n'est pas une introduction à la philosophie médiévale dans son ensemble. Alain de Libera construit son livre autour d'un événement précis et particulièrement significatif du point de vue historique et philosophique. La condamnation en 1277 par l'évêque de Paris Étienne Tempier de 219 thèses philosophiques qu'il sera désormais interdit d'enseigner à l'université. De quoi cet événement était-il le signe et quelles répercussions aura-t-il sur la vie intellectuelle européenne ? Ali Ben Makhlouf, Pourquoi lire les philosophes arabes, Albin Michel, 2015. Ali Ben Makhlouf est spécialiste de philosophie de la logique et particulièrement des débuts de la philosophie analytique, Frege, Russell, Wittgenstein. Que de doux sons à mes oreilles. Je le connaissais notamment pour son ouvrage sur l'atomisme logique de Russell, l'une des rares sources en français sur ce sujet. Il se trouve que, par ailleurs, Ali Ben Makhlouf a aussi écrit plusieurs ouvrages sur la philosophie arabe médiévale, dont « Pourquoi lire les philosophes arabes ?». Ce livre, qui, comme son titre le suggère, ne s'adresse pas aux spécialistes, permet de découvrir et de comprendre cette tradition longtemps négligée en Occident, mais particulièrement riche et qui eut une importance considérable sur les philosophes médiévaux chrétiens, notamment sur la question du rapport entre raison et foi.